Donc, nous allons regarder cette idée de fidélité exprimée par juste une personne de l'Ancien Testament aujourd'hui, mais on va parler quand même de cette notion de foi. Voici comment l'athée Christopher Hitchens a décrit la foi chrétienne dans un débat qui a eu lieu il y a une dizaine d'années en arrière sur un campus universitaire aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit. La foi en Jésus n'est pas comme croire aux licornes. C'est plutôt comme l'histoire de la petite souris qui échange la dent de l'enfant pour une pièce d'argent. Le sacrifice d'un homme est une histoire barbare, une fabrication. L'évangile est immoral, rempli de mensonges, manipulateur, qu'on enseigne aux enfants, ce qui est inadmissible. Et si le christianisme nous enseigne quelque chose, c'est que si Dieu existe, il s'en fiche totalement des habitants de ce monde, car les gens souffrent sans espérance. Ils vivent dans l'ignorance et la misère. Le monde va mal, et c'est la faute de Dieu, car il a le pouvoir de faire quelque chose, mais il ne fait rien. Ceux qui croient en Dieu sont des masochistes qui cherchent un gourou plutôt que la vérité. Un autre athée a écrit sur le web, voici ce qu'il a écrit. Voici votre théorie pour expliquer comment faire face au monde actuel. Le monde est dans un état désastreux car une femme, créée d'une côte d'homme, a rencontré un serpent loquace qui a pu la convaincre de manger le fruit d'un arbre magique. Et que maintenant vous devez, par télépathie, dire à un homme juif, âgé de 2000 ans, que vous lui cédiez le contrôle de votre vie. Bon, nous nous trouvons aujourd'hui en face d'un athéisme missionnaire et militant qui non seulement ne croit pas en Dieu, mais qui est Dieu et qui est le christianisme et qui est ce que la foi produit, qui a du mépris pour tous ceux qui croient. Et ce qui n'est pas différent des siècles passés et que la foi a toujours été ridiculisée et les gens ont dû toujours faire face à l'ennemi qui voulait sa destruction. Mais maintenant, nous voyons cette haine. Nous trouvons dans la Bible des histoires des gens qui ont vécu avec foi, qui n'ont pas vu, mais qui ont eu confiance en les promesses qu'ils croyaient venaient de Dieu. Des gens qui ont basé leur vie sur ces promesses. Et quand nous vivons avec confiance, quand nous devenons des hommes et des femmes de foi, des saints d'autrefois deviennent nos ancêtres spirituels. Nous sommes greffés à leur héritage, ce qui a été promis à Abraham est maintenant promis à chacun de nous. Et nous appartenons à une communauté de foi qui traverse des siècles. Cette communauté est plus grande qu'un rassemblement de fidèles dans un endroit géographique. C'est aussi le rassemblement de tous les saints, de tous les temps, qui ont mis leur confiance en Dieu, qui dit depuis le début ont marché avec Dieu. Et donc, nous devons s'attaquer à notre texte qui est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui donne une définition, je dirais, classique de la foi. Oh, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La foi consiste en la certitude, aujourd'hui, de quelque chose qui est souvent caché et souvent dans le passé et dans l'avenir. L'espérance est que Dieu va garder toutes ses promesses et qu'il a déjà mis en marche cet accomplissement dans l'avènement de Jésus, le Messie. C'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est de vivre comme une réalité ce que nous n'avons pas encore vu et ce que nous ne voyons pas maintenant. Ce que les chrétiens, ceux qui ont reçu cette lettre, ont dû apprendre à faire, et ils peinaient de faire. Le texte dit, en soumettant ainsi toutes choses à Jésus, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. La foi n'est pas de vivre des choses que nous savons ne sont pas vraies. Ce n'est pas de vivre quelque chose qui est contre la logique ou contre le raisonnement. C'est plutôt mettre sa confiance en des choses, et spécialement dans une personne qu'on n'a jamais vue. C'est d'être sûr que Dieu a commencé notre histoire, qu'il est entré dans cette histoire pour créer un peuple, pour que nous vivions avec lui en communion. Et donc, comment définir la foi? Bon, nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Il dit ici, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, okay? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et comment est-ce que nous pouvons donc définir? Bon, il y a l'apôtre Pierre qui a écrit ceci en parlant de Jésus dans 1 Pierre chapitre 1. Il dit, « Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Bon, là, c'est une définition tout simple de la foi. C'est la foi pour les nuls. Hein? C'est quoi? C'est que vous croyez sans avoir vu. Okay? Et puis, non seulement cela, vous tressaillez de joie et d'allégresse indicible et glorieuse parce que vous croyez. C'est-à-dire, c'est notre adoration qui en sort parce que nous croyons fermement en lui. Bon, on doit se poser la question pourquoi on ne tressaillit pas plus de joie. Mais ici, c'est ce qui se passe quand nous croyons et nous avons cette foi. La plupart d'entre nous n'apprenons pas ce que c'est quelque chose. La plupart de nous ne nous comprenons pas ce que c'est quelque chose en lisant un dictionnaire. La plupart de nous, nous avons besoin d'exemples pour comprendre ces différentes choses. Et donc, de lire Hébreux chapitre 11, le verset 1, pour définir la foi, ok, ça aide. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. C'est à travers les exemples d'hommes et des femmes que nous voyons ce que c'est de vivre une foi obéissante à notre Dieu. Et c'est dans notre héritage que nous découvrons des gens qui ont marché avec Dieu et nous apprenons que la foi n'est pas simplement intellectuelle, c'est-à-dire qu'on dit que quelque chose est vrai et on l'accepte, mais c'est aussi l'influence de toute cette foi sur nos actions, c'est-à-dire allons-nous marcher avec fidélité. Vous êtes au courant, je suis sûr, que le mot pour foi en hébreu et le mot pour fidélité en hébreu, c'est le même mot. C'est-à-dire, avoir la foi et être fidèle, c'est la même chose dans la langue hébraïque. Et donc, quand on parle de la foi, nous sommes en train de parler des gens qui vivent dans l'obéissance à Dieu cette foi. Ce n'est jamais dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, c'est jamais simplement de croire quelque chose dans notre tête, mais la vie n'est pas changée. Alors, qu'est-ce que cette foi? Bon, ça commence avec la première chose, c'est que Dieu a créé le monde. Okay. Et écoutez bien, vous ne pouvez pas avoir la foi en Christ si vous n'avez pas la foi que Dieu a créé ce monde. Okay? Voici ce que nous lisons. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Pardon. Et le verset après qui dit, excusez-moi, okay, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, le premier exemple de la foi, la première réalité spirituelle qu'il faut saisir, c'est d'être convaincu que nous vivons dans un monde matériel et spirituel qui a son origine dans l'invisible, car Dieu a parlé et le monde a été créé. Que le matériel est venu de ce qui est invisible et que le monde spirituel aussi a été créé par lui. Cette histoire est racontée dans la Genèse. Donc, Dieu créa le ciel et la terre, où Dieu dit que la lumière soit, et puis la lumière fut. Vous vous souvenez de tout cela. Il me semble qu'il y a deux possibilités. Soit que la matière a existé depuis toujours, et donc que la matière est éternelle, soit qu'il n'y avait pas quelque chose, et au commencement du temps, ceci a été créé. Et le juif, le musulman et le chrétien, tous acceptent un créateur, qui est Dieu, depuis le début. Celui qui est le commencement de toute chose. Créateur, la première cause, ou celui qui est rempli de créativité. Et croire que Dieu est le créateur de toute chose, et plus que croire que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. C'est plus que cela. C'est même plus que de croire que Genèse est littéralement vrai, dans le sens que il y a ça, 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 et on a toutes ces choses qui sont arrivées, comme j'ai dit, dans 6 jours de 24 heures. C'est beaucoup plus de cela. Et si nous venons à cela et nous disons c'est cela que le texte veut dire, va nous donner quelque chose de marqué, un type de livre horaire, agenda qui dit comment les choses sont créées, on va se tromper. Je crois personnellement que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il a annoncé et les choses ont eu lieu. Je crois qu'il a pu accélérer tout dans quelques secondes pour que tout se passe dans un moment comme ceci. Mais ce n'est pas le but de Genèse de nous montrer exactement quelles étaient les procédures que Dieu a suivies. Croire en Dieu, c'est l'idée de croire que le monde existe pour une raison. Que Dieu a créé le monde et les gens pour avoir un peuple. Paul dit, c'est pour avoir un peuple qui lui appartient. Pour ceux qui ont de la peine à croire en ce Dieu créateur, la prochaine fois que vous lisez le texte de la Bible, chaque fois que vous rencontrez la phrase « le créateur » ou « le Dieu qui a créé » ou « la création », mettez un « C » dans vos marches. Alors, si vous utilisez un livre digital, c'est autrement, il faut peut-être choisir une couleur si vous voulez. Mais vous serez étonné de voir combien de fois que la Bible est remplie de phrases qui disent que Dieu est créateur. Vous ne pouvez pas simplement éliminer les premiers 2 chapitres de Genèse et dire que donc Dieu n'est plus créateur si on peut expliquer ces choses-là. Je vous donne un exemple. Okay? Abraham, dans Genèse chapitre 14, le verset 22, il a juré par le créateur. Moïse a reproché le peuple de ne pas avoir montré du respect à celui qui les avait formés. Dieu reproche Job d'être prétentieux, car Job n'était pas présent quand les fondations de la terre ont été posées. Psalmiste, maintes fois, mais il a fait appel à la création, à louer Dieu, son créateur, dans le psaume 48. L'Ecclésiaste rappelle à ses lecteurs de ne pas oublier le créateur pendant leur jeunesse. Ésaïe, le prophète, loue Dieu, car il est le créateur de l'univers. Amos proclame que c'est Dieu qui a formé les montagnes et créé le vent. Amos a fait ça. Et Jésus lui-même croyait à la Genèse quand il a parlé du plan de Dieu pour le mariage. Les apôtres ont parlé des preuves de la puissance de Dieu, de sa nature divine, qui sont révélées à travers la création. Et donc, vous voyez que toute l'Écriture est remplie de l'enseignement que Dieu est le créateur de ce monde. Okay? La Bible est remplie de cela. Mais mon but n'est pas de vous faire croire une création de 6 jours. Ce n'est pas mon but. Mais plutôt de vous rappeler que vous avez mis votre confiance dans le créateur de toutes choses. C'est le créateur qui a un plan pour l'humanité. C'est pour cela que le Nouveau Testament parle d'une nouvelle création. Nous ne sommes plus condamnés à vivre selon le vieil Adam, mais maintenant, nous pouvons vivre selon celui qui introduit la vie dans le monde déchu. Voici ce que nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première, c'est que si Dieu est créateur, que peut-il faire? Il peut nous recréer, il peut nous renouveler, parce que c'est lui le créateur de ce monde. Et puis Jésus lui-même a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a une renaissance qui vient de celui qui est le créateur de toutes choses. Le créateur est prêt à faire le nécessaire pour qu'une nouvelle création, libérée du péché et de la puissance de la mort, puisse exister et devenir réalité. Nous pouvons chanter comme tu aimes faire, chanter et repartir à zéro, et repartir à zéro. Mais nous pouvons chanter aussi devenir un être nouveau. C'est pour cela que Jésus est venu. Donc croire en Jésus, pardon, croire en Dieu créateur, est plus que croire à deux chapitres de Genèse. C'est de croire en celui qui renouvelle toutes choses. Et cela, en partie, est notre foi. Nous mettons notre confiance en celui qui a commencé toutes choses et qui a recommencé toutes choses nouvelles en Jésus. Nous attendons tous la rédemption de notre corps, l'adoption pour devenir tout ce que Dieu veut de nous. Et donc, première chose que nous croyons, c'est que nous croyons à Dieu créateur qui nous a amenés dans ce monde et qui nous mène quelque part. Bon, je veux juste vous parler de quelqu'un d'autre. Comme ça, on parle quand même d'une personne de l'Ancien Testament. Et c'est cette personne, c'est Abel. La foi aussi nous pousse, comme nous avons déjà vu dans 1 Pierre, nous croyons sans l'avoir vu et donc nous tressaillons, il dit, d'allégresse. La foi nous pousse à adorer Dieu et à bien adorer Dieu. Je m'explique. Pendant des siècles, les gens avaient vécu dans l'ignorance. Ils ne savaient pas qui était Dieu. Ils avaient des notions de qui il était, mais ils ne savaient pas comment entrer en contact avec lui. Ils ne savaient pas comment l'adorer parce qu'ils vivaient dans l'ignorance. Ils ont adoré, par exemple, la création plutôt que le créateur. Ils ont mal visé leur adoration. Même s'ils auraient dû prêter attention que s'il y a une création, il y a un créateur. Mais la voix de Dieu traversait les siècles et appelait les hommes et les femmes à venir humblement devant lui en adoration. Et le premier cas que nous avons de cela, c'est le cas d'Abel. Voici ce que nous lisons. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Bah, notons bien que ce qui a séparé les deux offrandes, okay, celle de Caïn et celle d'Abel, a été la foi qui les a amenés à les donner en réponse à leur relation avec Dieu. Il dit que c'est par la foi. Alors, nous ne savons pas grand-chose de ce qui s'est passé. Nous savons que lui, il a offert des animaux de son troupeau, les premiers. Et donc, on peut aller lire ce passage de Genèse, chapitre 4, les versets 2 à 5. Abel devint berger de petits bétail et Caïn, cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec le graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Okay. N'oublions pas que Abel a offert ce qu'il a offert par la foi. Et nous remarquons comment la foi s'est exprimée à travers l'offrande d'Abel. Je ne comprends pas pour Caïn, parce qu'il ne dit pas. Mais nous savons pourquoi Abel, comment il a exprimé sa foi. Notons bien, il a donné le meilleur de ses troupeaux. Okay. Le premier-né, ou les premiers-nés, est une offrande spéciale. Et la graisse des animaux est aussi une offrande spéciale. Alors, nous découpons la graisse, on ne veut pas le manger. Okay. Pour eux, ce n'était pas le cas. C'était la meilleure partie de ce repas. Et donc, nous ne remarquons rien de spécial dans l'offrande de Caïn. Mais Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné les meilleurs qu'il avait. Sa foi l'a poussé de donner au Dieu créateur le meilleur chose, les meilleures choses qu'il avait. Dieu était non seulement le premier, mais Dieu est celui qui méritait les meilleures choses de sa vie. Il ne gardait pas le meilleur pour lui-même, mais il donnait ces choses à Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. Sur Abel veut dire que la personne d'Abel était acceptée par Dieu. Il appréciait le cœur d'Abel. Il aimait le cœur d'Abel. Non seulement son offrande, mais Abel lui-même. D'abord, Dieu a regardé la personne et après, il a regardé l'offrande. Abel avait offert sa vie à Dieu, contrairement à Caïn. Et nous lisons ceci dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 12. « Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. » Et pourquoi s'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ici, nous apprenons que Caïn était du malin. Il ne pouvait pas offrir un sacrifice agréable à Dieu. Par contre, celui qui est de Dieu peut offrir ce qui lui est agréable. Offrir à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn, est aussi une affaire de foi. Caïn s'est confié en sa propre bonté quand il a apporté son sacrifice à Dieu. Il semble qu'il a refusé de se donner à Dieu avant d'offrir ce qu'il a offert. Abel a mis sa confiance en Dieu et non pas en lui-même et son propre effort, sa propre capacité de plaire à Dieu. La foi, nous l'avons. Et cette foi nous stimule à offrir à Dieu notre adoration. Mais comment offrons-nous à Dieu notre adoration? Est-ce que nous offrons le meilleur de nous-mêmes? Ou est-ce que nous lui offrons les restes? Est-ce que nous sommes des gens entiers ou est-ce que nous l'adorons seulement de nos lèvres? Et notre point de repère, est-ce le monde, le paganisme ou autre chose? Ou est-ce Dieu qui a donné sa parole créatrice dans ce monde? Et donc cette foi que nous voyons chez Abel, l'amener de se donner lui-même à Dieu et puis après de donner le meilleur de ce qu'il a vu. Et moi, je veux vous suggérer que c'est cette adoration en Jésus-Christ que Dieu demande aujourd'hui par ceux qui ont la foi. Qu'on vienne à lui en voulant donner non seulement nos lèvres et non seulement notre argent, mais en donnant nos cœurs à lui. Et puis tout le reste suit, c'est-à-dire les meilleurs de notre temps, de nos biens, le mieux que nous avons, nous donnons à lui. Quand nous examinons la foi, c'est-à-dire l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, les deux exemples que nous avons vus nous aident à savoir comment vivre pratiquement aujourd'hui avec plus de confiance. D'abord, c'est de vivre chaque jour en se réveillant et disant « Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a fait. » Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Et donc, nous célébrons cela chaque jour. Il est le Créateur. Il a réellement créé le monde. Il a fait de rien avec sa capacité de le faire et avec son vouloir de créer des gens qui vivent pour lui. Et une fois que nous mettons notre confiance dans ce Dieu créateur, c'est de lui offrir notre adoration. Bon, vivre par la foi, d'abord c'est de croire qu'il est créateur, et nous l'adorons motivé par sa gratitude sincère, par la gratitude sincère. Nous allons aimer notre prochain, pas comme Caïn, qui lui n'a pas pu le faire, mais de nous donner à Dieu, lui donner le mieux que nous savons et à ce moment-là apprendre à aimer comme Dieu a demandé.